France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le jeu des 1000 euros passe la semaine à Cézanne, dans la Marne. Et c'est donc dans ce département du Grand Est que les carnets de campagne mettent en lumière des initiatives, des bonnes idées, des solutions et des gens géniaux. Aujourd'hui, je passe un coup de fil à une association basée à Saint-Mémy, tout près de Châlons-en-Champagne. La bibliothèque sonore de la Marne. Elle propose aux aveugles, notamment, et à toutes les personnes qui sont empêchées de lire, de recevoir gratuitement des fichiers audio de livres en tout genre. Et pour cela, il faut des bénévoles qui lisent à voix haute. L'asso lance un appel pour recruter de nouveaux bénévoles, des donneurs de voix et des donneuses de voix. Avant cela, on s'intéresse à une initiative nationale. Elle commence tout juste et elle mobilise 100 000 enfants partout en France. Cela pourrait inspirer aussi les grandes personnes. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et si les enfants et les ados essayaient de se passer d'écran pendant 10 jours? C'est l'expérience que vont tenter du 13 au 22 mai des écoles, collèges et lycées. On oublie donc les tablettes, les ordis, la télé, les smartphones. C'est une idée qui est née au Québec il y a 20 ans et qui se diffuse peu à peu en France grâce à l'association 10 jours sans écran. Eneko Jorajuria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans le Pays Basque et vous coordonnez cet événement à l'échelle nationale pour l'association 10 jours sans écran. Vous êtes également professeur des écoles. Pourquoi 10 jours, dites-moi? Comment cette durée a-t-elle été choisie?
Eh bien, l'opération Défi 10 jours sans écran, qui a été créée par un Québécois au début des années 2000, c'est elle-même inspirée d'un programme mené par l'université de Stanford aux États-Unis à la fin des années 90, qui avait permis à des enfants de 9 ans de suivre un enseignement qui leur permettait de réduire le temps passé devant les écrans de loisirs. Il y avait un exercice de déconnexion numérique de 10 jours. Et ce programme avait porté ses fruits, il avait été rigoureusement mesuré par les scientifiques et il avait montré que cela permettait réellement de pouvoir faire réduire la consommation des écrans de loisirs aux enfants sur la durée. Et donc le défi 10 jours sans écran, il s'appuie sur les résultats probants de ce programme, le programme SMART, et donc a repris la durée de cet exercice de déconnexion numérique de 10 jours. Voilà. Et puis 10 jours, c'est assez long et c'est ce qu'il faut pour pouvoir réellement changer ses habitudes.
Voilà, c'est ça, c'est ni trop court ni trop long. C'est comme ça que cette durée a été choisie.
Oui, c'est ça. C'est quand même difficile. C'est un défi qui est long. Il y a deux mercredis, un week-end entier pendant lesquels les enfants, les familles vont devoir changer complètement leurs habitudes pour pouvoir gagner le plus de points possible contre les écrans de loisirs. Et c'est effectivement en même temps court, 10 jours, ça passe vite, mais c'est très long parce que les écrans sont vraiment entrés dans nos habitudes de vie et il est de plus en plus difficile de s'en passer.
Alors vous parlez des écrans de loisirs, est-ce que ça signifie que les profs qui utilisent un écran en classe peuvent continuer pendant les 10 jours?
Oui, on parle vraiment des écrans de loisirs parce que les données montrent que les adultes aussi, bien sûr, mais nous, on éduque les enfants. Les enfants, les adolescents passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps devant les écrans de loisirs. Ils y passent plus de temps, beaucoup plus de temps qu'en classe si on ramène leur consommation à l'année. Et ce sont des chiffres qui sont importants. Ça crée des problèmes de santé, de la sédentarité, le manque d'activité physique, le sommeil, la myopie, etc. Et donc, c'est vraiment les écrans de loisirs, c'est là où le bas blesse.
Combien d'établissements participent cette année à votre défi collectif?
Bien, il y a 700 crèches, écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges et lycées qui participent cette année au défi. Ça représente plus de 100 000 enfants et c'est une participation qui est géographiquement illimitée, ce qui fait que les écoles qui participent se retrouvent un petit peu dans tout le territoire français et même à l'étranger, puisque les lycées français à l'étranger, ils participent de plus en plus. Alors, il y a celui de Tokyo, celui de Los Angeles, des écoles tunisiennes ou marocaines qui participent.
Alors, les établissements s'inscrivent pour participer gratuitement et ils reçoivent un kit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit?
Alors, pour préciser, l'inscription au défi est gratuite, mais la réception des kits n'est pas tout à fait gratuite. Il y a une petite participation des écoles. On les distribue aux écoles qui en font la demande et en fonction des stocks, des kits qu'on a pu fabriquer, des subventions qu'on a pu obtenir. Alors, dans ces kits, on trouve un badge. Chaque élève reçoit un badge qu'il peut porter pendant toute la durée du défi, qui peut lui permettre de montrer qu'il participe au défi, qui peut renforcer sa fierté de participer à ce défi qui est très difficile. Et puis, on leur distribue aussi un carnet de bord. Et dans ce carnet de bord, il y a des activités ludopédagogiques pour travailler sur les effets du trop d'écran, sur la santé physique, la santé mentale, le vivre ensemble, etc. Et puis, il y a aussi une grille de points parce que pendant toute la durée du défi, les élèves peuvent remporter des points. Chaque fois qu'il se passe des écrans pendant 6 temps précis de la journée, la journée est découpée en 6 tranches, ça leur apporte un point. Et nous, on ne met pas les élèves en compétition entre eux. Au contraire, on les incite à cumuler les points de toute la classe, voire de toute l'école, pour faire monter progressivement pendant toute la durée du défi le compteur collectif et atteindre des milliers de points ensemble.
Il s'agit vraiment de cultiver le goût de la déconnexion numérique finalement. Quels sont les bienfaits que vous constatez ? Vous avez des exemples marquants à me raconter ?
Bien, alors, il y a beaucoup d'enthousiasme déjà des enfants qui nous disent à la fin du défi, ils sont majoritaires à nous dire que c'était une expérience qui leur a plu et qu'ils souhaiteraient que l'école renouvelle l'opération. Parce que pendant le défi, on fait beaucoup d'activités, les parents, les associations, les enseignants s'organisent pour proposer des activités hors temps de classe, pour faciliter le défi et vivre ce moment comme un moment un petit peu festif. Voilà, donc il y a beaucoup d'enthousiasme des élèves. Il y a des familles qui nous disent « Ah ben, ils vont changer leurs habitudes. Peut-être qu'ils n'allumeront pas la télé systématiquement en arrivant à la maison. Peut-être qu'ils prendront plus souvent des petits déjeuners ensemble en famille parce que c'était vraiment sympa et que il y a des liens forts qui se créent à ce moment-là. »
Et puis on entend le chant des oiseaux quand on débranche les écrans, comme derrière vous à l'instant, c'est aussi l'intérêt de sortir plus à l'extérieur.
Oui, c'est de développer aussi le contact avec la nature. Les scientifiques nous le disent, les ophtalmos nous le disent, il y a une épidémie de myopie qui se développe dans le monde au niveau des enfants. Elle est en très forte progression et c'est dû au fait qu'on ne passe plus assez de temps à l'extérieur. Nos yeux ne sont pas suffisamment soumis à la lumière extérieure et on sollicite trop la vue de près. Donc, éteignons les écrans, permettons aux enfants d'aller à l'extérieur et d'être au contact de la lumière naturelle, mais aussi de la nature, parce que la nature a des bienfaits qui sont de plus en plus reconnus sur la santé et le bien-être.
C'est une période enthousiasmante qui commence aussi pour vous. Vous attendez chaque année avec impatience ces 10 jours sans écran ?
Oui, honnêtement, oui, parce que c'est sont des moments... nous, on le fait à l'école, dans mon école. C'est toujours un moment un petit peu particulier où, entre les enseignants, les familles, les parents, les enfants, on vit des moments différents de celui de l'école. On se retrouve pour faire des activités sympathiques, des choses qu'on n'a jamais essayées avant. Et ça crée beaucoup de liens entre les différents acteurs de l'école.
Merci beaucoup, Eneko Jorajouria, coordinateur national donc de l'association 10 jours sans écran. Bonne journée à vous et surtout, bon défi collectif.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Et si vous deveniez donneur ou donneuse de voix ? Une association, la Bibliothèque Sonore, cherche en effet des bénévoles pour lire des livres à voix haute, devant un micro, afin d'offrir de la lecture à des personnes qui en sont empêchées, qu'elles soient aveugles, malvoyantes ou porteuses d'un handicap qui empêche de tenir un livre. Bonjour Françoise Petit.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes la présidente de la Bibliothèque Sonore de la Marne. Vous êtes à Saint-Mémy, dans l'agglomération de Châlons-en-Champagne. Et vous cherchez donc à recruter de nouveaux bénévoles. En quoi consiste précisément la mission de donneur de voix ou de donneuse de voix ?
D'abord, il faut aimer la lecture. Et par contre, ce n'est pas un genre théâtral que l'on demande. C'est de la lecture posée qui laisse l'auteur s'exprimer, qui ne va pas au-delà des mots. On ne demande pas à jouer tous les personnages, à mettre de la musique ou des choses comme ça. C'est quelque chose de naturel.
Oui, voilà, c'est pas un boulot de comédien ou de comédienne.
Pas du tout. C'est de la lecture, comme on lirait un livre un enfant ou à une personne plus âgée, mais toujours en utilisant un ton naturel.
Il existe énormément de livres audio aujourd'hui, Françoise. Quelle est la différence avec cette offre de la bibliothèque sonore ?
Ben, la particularité de la bibliothèque sonore, c'est que ce sont des livres audio enregistrés en voix humaine par rapport aux livres du commerce qui sont bien souvent enregistrés soit par des acteurs, où là il y a une rémunération de l'acteur, donc les livres sont souvent, les livres numériques sont payants souvent. La gratuité est toujours offerte par la bibliothèque sonore. Tout est gratuit.
Est-ce qu'il y a des bibliothèques sonores partout en France pour ceux et celles qui voudraient s'engager ailleurs que dans la Marne ?
Il y en a à peu près une par département, mais il y a quelques départements où on n'a pas de bibliothèque sonore. Ce qui fait que pour nous, dans la Marne, si on a des voisins des Ardennes ou de la Haute-Marne qui n'ont pas accès à la lecture, on les accueille avec beaucoup de plaisir. Il y a une centaine de bibliothèques sonores réparties sur le territoire.
Voilà, ces fichiers sont ensuite écoutés par les personnes qui sont inscrites à la bibliothèque sonore, soit sous forme numérique, hein, bien sûr, par mail, mais vous envoyez aussi des CD par la poste, hein, pour ceux pour qui ce serait plus simple. C'est un peu long, non, d'enregistrer un livre en entier, Françoise ?
Oui, ça prend du temps d'enregistrer un livre en entier. Pour une heure de lecture à l'écoute pour l'audiolecteur, il y a 4 heures de travail comptabilisées. Il y a le temps d'enregistrement du donneur de voix, le temps de la correction qu'il va apporter à ses fichiers, parce que quelquefois on bafouille, on utilise un mot pour un autre, on se relit. Et donc ensuite, les données sont transmises au responsable des donneurs de voix, qui de son côté va réécouter le livre pour s'assurer que tout est en ordre. Et par la suite, une fois que toutes ces corrections et ces vérifications ont été réalisées, c'est au niveau national que d'autres personnes vont mettre en ligne l'enregistrement. Donc cette succession de tâches va arriver à 4 heures de travail au total.
Et donc, vous avez besoin de beaucoup de monde ?
Alors, on a besoin de quelques personnes. On a déjà une douzaine de personnes qui sont donneuses de voix auprès de notre bibliothèque sonore. Mais pas seulement. On a besoin aussi de donneurs de temps avec des caractéristiques particulières en ce qui concerne les nouvelles technologies. Parce qu'il faut savoir que dans nos bibliothèques sonores, nous sommes déjà d'un certain âge. Et nous n'avons pas tous forcément eu connaissance des dernières technologies. Donc, on aimerait bien avoir des personnes pour nous créer un site Internet, pour nous aider dans différentes activités telles que celle-ci.
Merci beaucoup, Françoise Petit, présidente de la Bibliothèque sonore de la Marne. Bonne journée à vous.
Bonne journée également.